Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très contents de passer ces 3 heures avec vous jusqu'à 15h. Et durant ces 3 heures, vous retrouverez Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Il y aura également le prof d'histoire géo et militant CGT, Benjamin Amar. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
La journaliste à l'incorrect, Juliette Briens. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et le journaliste et écrivain Fred Hermel. Bonjour Fred.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Allez, au sommaire dans Estelle Midi, aujourd'hui, le départ du proviseur du lycée Ravel menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Est-ce une défaite pour la République ? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, on parlera de la distribution des chèques énergie à partir de la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il faut arrêter les chèques alors que l'État cherche à faire des économies ? À 13h, l'acteur Raphaël Quenard ou encore le chanteur Patrick Fiori moqués en raison de leurs accents. Mais avoir un accent pour vous, est-ce un atout ou une faiblesse? À 13h50, RMC s'engage avec vous avec une enquête sur des antibiotiques aux graves effets indésirables. Et puis à 14h, on parlera de la journée mondiale du fromage. C'est aujourd'hui le fromage qui fait partie de notre patrimoine culinaire. Et pourtant, on en consomme de moins en moins en France. Alors, faut-il réhabiliter le fromage à la fin de nos repas? On se posera la question à 14h. Et puis, on vous fait gagner une très, très grosse somme d'argent sur RMC, Rémi.
Une grosse somme d'argent, jusqu'à 50 000 euros. C'est le retour du coffre RMC. Dès que vous entendrez ce signal, un signal qui peut tomber à tout moment, tout au long de la journée sur RMC, même pendant les pubs, hein, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16. Vendredi prochain, après-demain, le 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera en direct avec nous pour tenter de remporter le coffre RMC. Le principe, c'est toujours le même avec le coffre. Vous remportez déjà une très belle somme, 2500 euros. Et à ce moment-là, vous avez le choix soit de conserver cette somme, soit d'y renoncer pour pouvoir ouvrir le coffre. À l'intérieur, il peut y avoir soit une semaine de vacances dans l'un des campings Kikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Mais ici sur RMC, on va s'intéresser tout de suite à l'actualité du jour et c'est le départ du proviseur du lycée Ravel qui avait été menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Le proviseur avait reçu le soutien de Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, mais il a tout de même choisi, Rémi, d'anticiper son départ à la retraite pour des raisons de sécurité.
Ouais, tout a commencé fin février. À l'époque, une lycéenne de l'établissement affirme avoir été poussée et tapée par le proviseur qui lui demandait de retirer son voile. Elle avait alors porté plainte le 1er mars pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Le parquet de Paris précise que le proviseur avait rappelé à 3 élèves leur obligation de retirer leur voile dans l'enceinte du lycée.
C'est la loi.
L'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, aurait ignoré le proviseur, ce qui avait provoqué une altercation. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque dans les jours qui ont suivi, le proviseur a été la cible de menaces de mort, notamment via les réseaux sociaux et notamment via des vidéos. Il a alors reçu le soutien de la ministre de l'Éducation nationale, du rectorat, qui a notamment mis en place des mesures de protection pour lui et pour l'ensemble des élèves et des personnels de l'établissement. Reste que le proviseur semble avoir été très marqué par les événements et que, à quelques mois de sa fin de carrière, en concertation avec sa hiérarchie, son départ en retraite anticipée a été décidé.
Alors, la démission du proviseur du lycée Ravel, est-ce une défaite pour la République, Benjamin Amar?
En tout cas, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'école et pour le principe de laïcité. Parce que l'histoire, alors il y a quand même quelque chose qui quand même pose souci, c'est que le rectorat nous parle de convenance personnelle, alors que le message
ça
interne,
pas une convenance, hein, quand t'es
alors que
non,
le message interne du collègue proviseur mentionne bien le message interne aux élèves, aux enseignants, aux membres du conseil d'administration parle bien de questions de sécurité. Et donc, alors moi, je ne charge pas là-dessus. Il faut être quand même nuancé. Nicole Belloubet a fait le déplacement. Je pense qu'on peut
heureux, j'ai envie de dire.
Oui, oui, bien sûr, bah, évidemment encore. Je ne doute pas un seul instant que la hiérarchie ait soutenu le collègue proviseur. Mais je pense que ça pose une question simple. Les mesures qui sont prévues pour assurer l'accompagnement et la protection ne sont pas suffisantes, tout simplement. Et moi, je trouve que le message est très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu là. Un proviseur qui a décidé, voilà, de quelque chose qui fait partie de son devoir, c'est-à-dire demander à une élève d'enlever son voile, bah voilà.
Et c'est la loi.
C'est le fonctionnement normal d'un établissement. Moi, dans le lycée où je travaille, les élèves à l'entrée de l'établissement, effectivement, dès qu'elles rentrent, elles enlèvent le voile. C'est automatique. Il y a même pas besoin de le demander.
Il y avait de moins en moins de problèmes avec le voile. C'est-à-dire qu'on autant on avait beaucoup parlé de la baïa, mais le voile, voilà, c'est fait intégré.
Je pense que voilà, dans le déroulé de la situation, ça a été très très loin et. Et je pense que si à quelques mois de la retraite, parce que il est à la retraite très rapidement, il faut le dire.
À la fin de l'année scolaire.
Ouais, et faut se dire les choses. L'année scolaire, là, elle arrive dans sa dernière ligne droite parce que les vacances, le retour des vacances, ça va se faire autour du 20 avril. Ensuite, on a le mois de mai qui est truffé de ponts et de jours fériés. Et il y a le mois de juin où c'est le début début de l'organisation des épreuves du final du bac. Donc ça veut dire que le climat a dû être particulièrement lourd pour le pousser à cette décision.
Lui, il voulait rester, hein. C'est ce qu'il dit.
Voilà. Et donc, ça pose un vrai souci sur les mesures prévues pour garantir la protection des personnels dans ce genre de situation.
Finalement, Juliette, est-ce que c'était, même si c'est une défaite de l'État, de la République, est-ce que c'était la meilleure décision à prendre si, en fait, sa sécurité et celle des personnels enseignants et des élèves n'étaient pas assurées ?
Non, la décision, elle est désastreuse. Le symbole est désastreux. Je veux dire, on en est là aujourd'hui, quoi. Des années après Samuel Paty, après Dominique Bernard, ça montre le vide, en fait, des discours des gouvernements successifs qui nous ont promis qu'on allait bouger, qui nous ont promis qu'on allait jamais céder. Et en fait, là, bah, on cède. On laisse le terrain, le champ libre aux racailles et aux islamistes et on les laisse gagner. Et c'est terrifiant. Moi, je pense qu'on est, foutu. Vraiment, le symbole est tellement désastreux. Évidemment, vous dites le proviseur, il avait envie de rester. Donc, on l'a poussé par la sortie. On lui a dit clairement, l'État ne peut rien pour vous.
Ne peut pas assurer.
C'est ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit d'autre? S'il faut partir pour votre sécurité.
Après, on ne peut pas vous protéger.
Voilà, exactement. Ouais. Il y a une concertation. Il y a des sources syndicales qui disent que le proviseur en question est psychologiquement quand même très marqué par cette affaire. Et certains syndicats disent que c'est une décision intime qui lui revient et qu'il y a une concertation avec le recteur.
Il avait envie de rester et.
Il n'a pas vu des menaces
sur sa sécurité. Il a senti qu'il n'était pas en sécurité, que l'État ne le protégeait pas, qu'il n'était pas en sécurité. Il a dit d'un commun accord, je pars. Excusez-moi.
Non, il est parti parce qu'il ne se sentait plus en sécurité.
Exactement. Donc, il se sentait plus en sécurité parce que.
Mais on l'a
pas mis en sécurité. Donc, le symbole est désastreux, la décision est désastreuse. On on a cédé. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Fred Hermel.
Ah, mais moi, je comprends ce proviseur.
Oui.
Mais c'est terrible pour lui. En plus, c'est sa fin de carrière. Donc, après, s'il a été muté ailleurs, etc. Mais en fait, vous imaginez.
Aucun accro durant sa carrière.
Mais non, mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie, et Dieu sait si c'est un véritable engagement que d'être proviseur, d'être enseignant. Proviseur qui a donné sa vie pour l'enseignement public, pour l'école de République, et ça finit comme ça. Vous imaginez, enfin, c'est de la retraite qu'il va y avoir derrière, quoi. Enfin, c'est terrible pour lui. Donc, je suis d'accord avec Juliette, le symbole est terrifiant. Mais moi, je comprends ce monsieur.
Ah non, oui.
Je comprends. Et j'interprète comme toi, l'État n'est pas capable d'assurer sa sécurité.
C'est pas,
puisqu'on est obligé de l'exfiltrer. Parce que finalement, on l'a exfiltré de l'éducation nationale.
C'est
exactement le mot, comme on exfiltre des gens qui sont menacés dans un endroit.
On appelle ça un commun accord.
Il a été exfiltré. C'est terrible. Et je suis.
Après, peut-être. Encore une fois, peut-être que lui ne se sentait plus capable. Et ce qu'on peut comprendre.
Oui, mais bien sûr.
D'exercer son métier parce qu'il avait peur. Et j'imagine qu'à chaque fois qu'il franchissait les portes de son établissement, il avait peur.
Mais
il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a quelques mois, Dominique Bernard. Là, c'était il y a 5 mois, il y a 6 mois. Donc, sa réaction, elle est tout à fait logique.
Évidemment.
Mais au niveau du symbole et de ce que ça signifiait, c'est qu'aujourd'hui, l'État n'est plus capable de lutter contre l'influence islamiste et le danger islamiste à l'école.
Voilà, ça, alors c'est qu'on avait remis.
Non, mais attends, faut pas faire, non, mais on va pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que là, mais non, mais attends.
Qui le menace?
Non, mais déjà, mais qui menace déjà, un, tu sais qui le menace?
Mais les islamistes, il a reçu
énormément de menaces de mort. Mais encore une fois, tu peux aussi avoir dans les menaces de mort des débiles, des décérébrés qui se servent de ça. Voilà.
Mais c'était que des décérébrés, t'inquiète pas, il y aurait pas de menace.
Il faut faire attention, à ce qu'on dit.
Tu sais très bien que les services de renseignement, là, ont alerté. Parce que si c'était que des débiles et des cérébrés, t'inquiète pas, on lui aurait dit, il y a pas de problème. C'est qu'il y a un véritable danger.
Mais attends, mais encore heureux qu'aujourd'hui, à la moindre menace de mort d'un proviseur ou d'un enseignant, je veux dire, tu te mobilises. Et comme ça, tu vérifies si c'est une menace, réelle, entre guillemets, si c'est un plaisantin.
Là,
si
c'est réel, puisqu'il y a
des menaces de violence partout, mais c'est dès que ça touche l'islamisme qu'il se passe des choses comme ça. Pour les autres sujets, il n'y a pas.
La question du fait qu'il ait été impacté psychologiquement, personne ne met ça en cause, personne. Mais pour moi, dans ce cas-là, si effectivement c'est ça qui a, imaginons, prédominé, c'est un départ contraint. C'est-à-dire bien que sous la, tu lui fous une pression telle qu'à la fin, il craque et il ne se sent pas de continuer. Donc ça change rien au problème. Et tu disais, il a eu aucun accroc dans sa carrière. Mais même s'il en avait eu.
Bien sûr.
Qui mérite des menaces de mort en ligne, etc.
C'est pour renforcer mon propos, en fait. Voilà.
Oui, mais très bien. Mais moi, j'insiste là-dessus. Oui. D'où on menace de mort? Qu'est-ce que, surtout après les événements qu'on a eus ces dernières années, les menaces de mort, il faut qu'elles soient proscrites et que personne ne s'amuse à faire ça. Et imaginons une carrière un peu plus chaotique, ça ne changerait rien au problème. Et en l'occurrence, oui, en effet. La haine en ligne aujourd'hui, d'ailleurs je rappelle qu'il y a aujourd'hui une nouvelle division du parquet qui traite de la haine en ligne, peu importe qui menace, peu importe qui profère des menaces, derrière ça diligente une enquête du parquet, ça doit être traité avec la plus grande des célérités. Il faut que la pression et que la peur changent de camp. Et je le dis parce que je remarque, je l'ai dit ici à l'antenne, ce n'est pas un discours que j'avais ces dernières années. Je remarque, à l'échelle de mon métier, un changement de paradigme et des attitudes très menaçantes, parfois de certains élèves, parfois de certaines familles. C'est à la marge, c'est très périphérique, mais ça existe beaucoup plus qu'il y a quelques années et ça doit cesser.
On est avec Stéphanie en ligne qui nous appelle des Bouches-du-Rhône et qui est enseignante au collège. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, est-ce que cette nouvelle vous bouleverse? Voilà, ce proviseur qui finalement est contraint de partir parce qu'il a été menacé de mort.
Alors, moi, je ne veux pas juger sur il est contraint, pas contraint. En fait, moi, je n'ai pas les éléments et les aboutissants, donc je ne peux pas porter un jugement là-dessus, quoi. Voilà, ça se trouve, c'est sa famille qui lui a dit retire-toi de là, on a envie de profiter de toi pendant ta retraite. On ne sait pas.
Enfin, oui, alors c'est pas que ça. Enfin, c'est retire-toi de là parce qu'on est trop inquiet pour toi.
Ouais. Après, voilà. Après, qu'il soit mis en danger, ça c'est très grave. Les propos, en fait, on a un gros souci dans la société actuelle et on le ressent dans nos classes, c'est que les mots n'ont plus de sens avec la démocratisation des réseaux sociaux, avec aujourd'hui on peut dire je vais tuer à quelqu'un, en fait ça a devenu un langage familier et courant. Je suis même pas sûre que les jeunes ils ont le sens des propos tenus, quoi. Et c'est bien grave. Par contre,
une banalisation.
On les a ces mots. On les a au quotidien. Et il faut pas dire que c'est de façon sporadique, une fois de temps en temps, où il y a un enseignant qui va être traité de je ne sais quoi, de parce que le jeune il a fumé dans les locaux, parce que le jeune il s'est battu dans la cour, parce que en fait il y a une violence latente, vraiment. Tant dans les propos, mais aussi physiques, des élèves et des familles.
C'est ce que vient de dire Benjamin, d'ailleurs.
Nous, quand on a fait le choix d'aller dans cette branche professionnelle, c'est un choix. Pour moi, je me dis, j'ai ma place et je dois leur apporter quelque chose, mais on se retrouve face à une réalité qui est, pour moi.
Et est-ce que vous sentez protégée quand même, Stéphanie? On sent que vous prenez beaucoup de pincettes dans ce que vous dites, mais est-ce que vous sentez vous protégée aujourd'hui au sein de votre établissement?
Alors, moi, je n'ai pas peur d'aller au travail.
D'accord.
Par contre, les propos qui me sont tenus ou des fois les réactions des familles, ça, c'est angoissant.
D'accord.
En fait, c'est bien différent. Moi, j'y vais avec plaisir. Je prends mon poste tous les matins avec un grand plaisir.
C'est ce qu'il y a autour, en fait, qui vous pèse.
Comment ?
C'est ce qu'il y a autour, en fait, qui vous pèse.
Oui, c'est qu'avant, enfin, je sais pas, moi, je suis de la génération des années 80, quand on revenait avec une punition à la maison, ben, on faisait punir une deuxième fois la maison.
C'est ça, oui, j'ai connu ça. Ouais.
Le prof.
Oui, mais bien sûr, mais c'est un changement. C'est un changement de paradigme, c'est exactement ce que disait Benjamin Amar. Merci Stéphanie, en tout cas, d'avoir témoigné dans Estelle Midi. Et on a beaucoup de messages également sur l'appli RMC. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir.
Oui, ce message de Henri, quoi qu'il arrive, cette histoire, c'est quand même une défaite de l'école publique et laïque. On ne peut pas laisser faire, on ne peut plus laisser faire. Voilà ce que nous dit Henri.
Notre invité sur ce débat, c'est Maxime Repère. Il est secrétaire national aux conditions de travail du SNALC. Bonjour Maxime Repère.
Bonjour. En fait, vice-président national.
Ah d'accord, bah, vice-président national. Désolé, vous nous rappelez ce que c'est que le SNALC, le syndicat national?
Alors, c'est le syndicat national des écoles, collèges et lycées. C'est un syndicat apolitique qui est en fait un syndicat de métier.
Très bien. Maxime Repère, c'est une défaite de la République pour vous, la démission de ce proviseur aujourd'hui?
Totalement. Totalement, c'est un échec collectif, c'est un échec de l'institution, c'est un échec de la République. En fait, il y a deux grilles de lecture. Il y a tout d'abord par rapport à la question de la laïcité, hein, puisque voilà, ce chef d'établissement qui, je le rappelle, hein, a quand même une certaine expérience, n'a fait que son travail. Il se retrouvait victime d'accusations de violence dans un premier temps, puis de menaces de mort dans un deuxième temps sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, eh bien, c'est la réaction du rectorat, qui fait état de raisons pour convenance, alors que le principal intéressé, lui, évoque des questions de sécurité. Donc là encore, moi, ça me fait tout de suite penser à la question du pas de vague.
Alors, une information qui vient de nous parvenir à l'instant, c'est une dépêche de l'AFP à propos de cet incident lié au voile, donc au lycée Ravel à Paris. On apprend que Gabriel Attal, le Premier ministre, va recevoir cet après-midi le proviseur du lycée Ravel qui a été menacé de mort.
Ouais, comme ça, il pourra dire évidemment si, enfin, convenance personnelle. Oui. Franchement, ça me choque qu'on puisse utiliser ces mots.
Je vous l'ai dit.
Mots de
symbole, il est fort quand même.
Ces mots de convenance, comme si c'était une convenance de partir en retraite 2 mois avant d'avoir des menaces de mort. Quoi.
Encore une fois, le symbole, il est fort hein, quand même. Oui. Que le proviseur soit reçu à Matignon par le Premier ministre.
Mais c'est normal.
Mais c'est normal. Ça a une odeur de pas de vague. Effectivement, ça a une odeur de pas de vague. Convenance personnelle. On met le mouchoir sur le problème. Ça a une convenance. Non, ça a eu une saveur de pas de vague. Donc, la réception par le Premier ministre, elle me semble tout à fait légitime et finalement, au vu de la situation, assez normale.
C'est un symbole fort. Et c'est pas la première fois que Gabriel Attal contredit le rectorat. Je vous rappelle que ça avait été également le cas dans avec le suicide du petit, petit Lucas.
Il est sur sa ligne. Hein, depuis le moment où il a pris ses fonctions de ministre de l'Éducation, sur la Baïa, il a été très ferme, etc. Le Premier ministre est toujours sur sa ligne. Et ça, c'est bien.
Maxime Repère, on est toujours avec vous. Donc, voilà, Gabriel Attal qui va recevoir ce proviseur. Est-ce que c'est un signe, un symbole fort pour vous?
Écoutez, c'est un signe, c'est un symbole. C'est, voilà, vous pouvez mettre ces mots-là derrière. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'il y a moi aussi quelque chose qui m'interpelle, quelque part. Ce sont les accusations de la fameuse élève qui a accusé quand même ce chef d'établissement de violence sur sa personne.
Oui.
Et si la plainte, soi-disant qu'elle aurait déposée, est classée sans suite...
Elle l'est.
Eh bien,
Elle l'est.
Eh bien, écoutez, j'attends quand même qu'il y ait une réaction de l'institution, voire même de la justice, par rapport à cela. Parce que cette plainte déposée par l'élève, eh bien, elle a contribué... quelque part à cette déferlante de haine sur les réseaux sociaux.
Et vous savez, c'est partagé
par des députés LFI, je tiens à le dire.
Daniel Simonet, exactement.
Et après, vous savez, voilà, pour l'assassinat de Samuel Paty, c'est pareil. Hein, c'est une gamine qui avait été.
Tout est parti d'un mensonge d'une élève pour Samuel Paty, donc il faut faire extrêmement attention, effectivement. Ça rappelle Samuel Paty, oui.
Regardez ce qui s'est passé au collège d'Issoux, ce qui s'est passé pour Samuel Paty, comme pour d'autres choses. Oui. Ça part de rumeurs, ça part d'accusations qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc à un moment donné, il faut dire stop. ceux qui font ça, ceux qui tiennent ces propos-là, il faut arrêter avec l'impunité. Parce que justement, c'est parce que derrière, il y a ce sentiment que rien ne va leur arriver, que des personnes peuvent tenir ce genre de propos. En se disant, moi je ne risque rien, je suis mineur, ou alors on ne va rien me faire, on va juste me réprimander. Non, il faut montrer à un moment donné que ce n'est pas anodin de porter des accusations de cette gravité et qu'il doit y avoir une réaction ferme et juste.
Merci beaucoup Maxime Repère en tout cas d'avoir été avec nous. Mohamed nous a appelé au 3216, nous appelle de Saint-Etienne, les chauffeurs-livreurs. Bonjour Mohamed.
Bonjour, vous m'entendez bien, c'est bon?
Oui, très bien Mohamed. Et vous vouliez réagir sur ce sujet, allez-y.
Alors tout d'abord, si je peux parler, Fred, Dieu seul sait que je t'aime beaucoup à la Madrid. Fred, tu fais l'amalgame des fois et je vais te dire un truc. Donc moi je suis musulman.
L'amalgame avec quoi?
Attends Fred.
Alors, en fait, Fred, tu disais tout à l'heure, tu sais, les islamismes et tout. Et Fred, je suis musulman et je te jure que moi aussi, je condamne tout ce qui se passe parce que ces gens-là nous font, nous font du mal.
Oui, je fais bien la différence entre l'islam et l'islamisme.
Voilà, Fred, c'est ça. Je t'aime beaucoup, Fred. Hein. Je te jure.
Mais oui, mais je vois pas où est le problème. Il y a une différence entre l'islamisme et l'islam.
Le problème, Fred, c'est que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à combattre ces personnes-là. Et ces personnes-là, en fait, ils font semblant. Ils viennent, ils font n'importe quoi, et à la fin, c'est nous qui ramassons. Donc, cette fille, elle a donc une voile. Moi, à l'école avant, Fred, il y avait des femmes voilées. Quand elles arrivaient à l'école, elles ont vu le voile et elles respectaient. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité parce que pourquoi? Elles savent très bien qu'elles ne risquent rien. Elles savent qu'elles sont mineures ou que voilà, elles vont porter plainte. Tu peux plus rien leur dire. Et tout ça, c'est l'éducation des parents.
Alors, elle était majeure. Hein. C'était une élève de BTS, oui. En fait. Elle était majeure.
C'est l'éducation, Estelle, c'est l'éducation des parents. Tout ça, c'est pas la République. Ouais. Hein. C'est pas la France. La France, elle peut pas être de partout. Elle peut pas tout faire, la France. Faut arrêter de toujours dire la France. C'est l'éducation des parents. Bien cette fille-là, elle est mal élevée. D'ailleurs, écoute-moi, je vais dire un truc. Elle ment. Et nous, dans l'islam, le mensonge, c'est interdit. Donc, je vais dire à cette fille, si elle m'entend, enlève ton voile. Arrête de faire semblant d'être musulmane. Tu nous fais mal. Tu nous fais mal et nous, on est tristes. Et on aime la France et Dieu seul sait qu'on aime ce pays plus que tout au monde. Mais ces gens-là, 30% de merde, eh ben, il faut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être les envoyer.
Je comprends ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas une défaite pour la République, c'est une défaite pour l'éducation, Mohamed, et qu'effectivement ce genre de fait, eh bien, ça fait du mal à l'islam. Et vous êtes musulman, vous l'avez dit, et je comprends parfaitement qu'effectivement vous vous sentiez très choqué aujourd'hui, et que vous dites certainement ça va encore rejaillir sur la communauté musulmane qui n'a rien demandé, qui ne fait rien, qui est parfaitement intégrée, et voilà, et je comprends parfaitement ce que vous dites. Merci beaucoup en tout cas Mohamed d'avoir été avec nous. Tu voulais rebondir?
Juste parce qu'il y a de très nombreux témoignages. Je voulais vous lire ce témoignage de Jules qui nous dit: les faits de violence dans les établissements scolaires sont de plus en plus fréquents et inquiétants. J'ai peur pour mes enfants, c'est une défaite. Oui, avant-hier dans le collège de mon fils, un élève s'en est pris à différents membres du personnel. Ils ont dû se mettre à plusieurs pour le maîtriser, attendre ensuite l'arrivée des gendarmes. Qu'est devenue notre école, qui doit être un lieu sûr pour nos enfants?
Et il y a aussi des problèmes psychologiques chez pas mal de gamins, oui.
Oui, en effet, et en lien avec ce que disait Mohamed, il est clair. Donc là, dans ce fait divers-là, il y a un problème, effectivement, lié avec le voile, etc. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la multiplication des cas de menaces, des cas de violence, des tensions à l'école sont pour des raisons multiples.
C'est ça.
Ça peut être là, c'est le cas
l'islam,
sur une question de laïcité et d'islam. Oui. C'est le cas aussi dans de très nombreux cas, des purs. Moi, j'ai des collègues autour qui se sont pris des charges de violence sur des questions de insultes, haine anti-prof, etc. En dehors de toute considération religieuse. Donc la crise à l'école sur ce sujet-là, elle est bien polysémique.
Oui, Juliette,
je sais évidemment que toutes les violences à l'école ne sont pas liées à l'islam. Donc je vais m'expliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que les violences et les violences liées à l'islam sont les plus dangereuses et sont celles qui vous causent de finir décapité ou de devoir partir en retraite anticipée. Pourquoi ? Parce que les violences liées à l'islam, les problèmes liés à l'islam à l'école, sortent du cadre de l'école et réveillent tous les islamistes de France. Et c'est eux ensuite qui viennent, qui n'ont rien à voir avec l'école, et qui viennent ensuite commettre des actes atroces sur les professeurs. Donc les violences liées à l'islam à l'école,
elles sont incontrôlables. Et c'est pour ça que c'est les plus graves. Et c'est pour ça que ce sont de celles-là qu'on parle, parce que c'est celles-là qui causent à des profs de démissionner.
Moi, j'entends ce que tu dis là.
Ou de finir. Mais,
ça, factuellement, voilà. On peut l'entendre. Il n'y a c'est pas de souci. Sur les cas de Samuel Paty, Dominique Bernard, bien pas de souci. C'est factuel. Mais moi, je suis désolé. Je m'inquiète de la violence à l'école ça, sur tous les sujets.
Tous les sujets.
Et j'aimerais bien qu'on en parle aussi quand ça parle d'autres cas très graves qui n'ont rien à voir avec ça.
On va voir le résultat tout de suite de notre sondage. Rémi, la démission de ce professeur qui avait été menacé de mort après avoir demandé à une jeune fille de retirer son voile, est-ce une défaite pour la République ?
C'est le oui qui l'emporte à une écrasante majorité pour 95% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Et demain, Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30 dans la matinale. C'est la première fois qu'elle accorde une interview. Dans un instant, on parlera de la distribution des chèques énergie à partir de la semaine prochaine. Mais faut-il arrêter justement avec cette politique du chèque ? Parce que Bruno Le Maire nous a dit qu'il fallait faire des économies. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 33, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Benjamin Hamard, Juliette Briens et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser à la distribution du jour. C'est celle des chèques énergie à partir de la semaine prochaine. Plus de 5,5 millions de Français vont bénéficier de ce coup de pouce qui peut aller de 48 à 277 euros. Et on peut se demander, Rémi, si ce ne seront pas les derniers chèques, vu que Bruno Le Maire a décidé de faire des économies.
Ouais, déjà en décembre dernier, le Bruno Le Maire avait indiqué que la politique du chèque s'était terminée. Il avait commencé alors par rappeler qu'il était contre ce type de dispositif à l'origine, mais que cela fait partie de la vie gouvernementale. En gros, il était contre, mais il l'a fait parce que le gouvernement l'a décidé. Il enchaînait en indiquant que pour rétablir les comptes publics, il faut dire à un moment donné, désolé, la caisse est fermée. Et pour cause. Entre prime carburant, chèque énergie, bouclier tarifaire, les seules aides à la consommation d'énergie mises en place à partir de 2021 face à l'inflation et jusqu'en 2023 auraient coûté 85 milliards d'euros, sans compter le versement de nombreuses indemnités pour faire face à l'inflation, ce qui a affecté les finances publiques sans pour autant apaiser les craintes des Français sur leur pouvoir d'achat. Le quoi qu'il en coûte semble bel et bien terminé, encore plus après la publication officielle hier, si vous l'aviez manqué, du déficit public de la France qui atteint 5,5% du PIB. Si Bruno Le Maire a promis une nouvelle fois hier qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, ce sont bel et bien les aides ou encore existantes qui devraient en faire les frais.
Alors, l'État doit-il arrêter sa politique du chèque, Fred Hermel ?
Malheureusement, oui. Il n'y a plus de sous. Donc à un moment, on dépense l'argent qu'on n'a pas. Donc là, c'est fini, quoi. Désolé, c'est fini.
C'est fini. Les gens qui en bénéficient, ils en ont besoin.
Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a plus d'argent.
D'accord.
On a un déficit de malades, on l'a évoqué hier. Donc
Mais là, c'est les plus démunis. Oui, quand tu n'arrives pas à payer ta facture d'électricité, bien.
Alors, on va faire des coupes sonores, mais on va faire des coupes sonores dans beaucoup de choses. Il faut que tout le monde, tout l'argent qui est gaspillé aussi par l'État, il va falloir. Moi, je suis OK qu'on arrête pour qu'on arrête ces chèques, mais qu'on arrête aussi le train de vie de l'État, qu'on réduise drastiquement le train de vie de l'État. Parce que moi, je ne comprends pas comment le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde. Soit dans cet état financier. C'est-à-dire que
l'État est un mauvais gestionnaire.
J'ai fait bac L, donc je suis pas fort en maths, mais je sais que quand tu donnes beaucoup et qu'à la fin t'as pas de service et qu'on te dit que t'es ruiné, c'est que l'argent il passe quelque part. Donc à un moment, et que Monsieur Moscovici, le président de la Cour des comptes, qu'on l'entende un peu plus, par exemple, sur ce genre de sujet, quoi, qui nous explique que le train de l'État ne va pas et qu'il faut faire des coupes sombres partout. Donc moi je veux bien et il faut. Qu'on prive les plus démunis de ces chèques. Après, c'est pas toujours les plus démunis qui ont touché les chèques.
C'est quand tu gagnes 11 000 euros dans l'année. Donc,
il y a des trucs qui ont été faits un peu n'importe comment, etc. Mmh. Ça n'a pas été très, très, très rationnel. Mais, ok, mais après, on va dégraisser le mammouth dans plusieurs secteurs, quoi. Je suis désolé, quoi. Parce qu'il y a, les McKinsey, les hauts fonctionnaires qui coûtent une fortune, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on paye très bien. Des experts, mais ça suffit pas. On prend des sociétés à côté pour faire le même travail. Non, tout ça, c'est fini. On n'a plus l'argent. La rigueur, oui, mais pour tout le monde.
Benjamin Hamard, est-ce que finalement la politique du chèque était une mauvaise politique ? Parce que on l'a vu, par exemple, les chèques carburant, ils arrivent comme ça sur ton compte. C'est peut-être même pas pour acheter du carburant. D'ailleurs, on voit que c'est quand même assez mal ficelé.
Oui.
Est-ce qu'il faudrait faire autre chose que cette politique du chèque ?
Alors moi, je le dis depuis un certain temps, y compris sur ce plateau, que la politique des chèques
Ce qui est proposé, bien sûr que les Français vont pas le refuser, mais que le gouvernement aurait été bien avisé d'essayer d'impulser une politique salariale en France qui aurait été une solution bien plus large que de faire au coup par coup des chèques, etc.
Et moins discriminante.
Là, en l'occurrence, comme tu l'as dit, faut bien mesurer que c'est une aide consacrée aux Français les plus démunis. C'est les 5 millions de ménages les plus pauvres. Et effectivement, par exemple, une personne seule, elle doit avoir un revenu fiscal inférieur à 11 000 euros par an. Donc, on est vraiment sur des ménages très précaires. Mais moi, je veux bien, je peux faire mienne la devise de Fred des économies. Mais alors, pour tous. Alors, il parlait du train de vie de l'État. Et notamment l'utilisation des cabinets privés, et ça je partage, c'est une gabegie insupportable. Il y en a eu un certain nombre qui ont fait l'objet de polémiques nombreuses ici même sur le plateau. Est-ce qu'on peut se rappeler, moi j'avais été scandalisé du point de vue du train de vie de l'État, alors on m'avait dit mais comment ça, c'est la diplomatie, le repas pour Charles III avec un repas à 6 millions d'euros.
C'est ce qu'on voit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas.
D'accord, mais moi, en l'occurrence, ce genre de choses m'ont particulièrement choqué. Et si on dit de l'austérité,
là, c'est 85 milliards d'euros. Alors, quand même.
Très bien. Eh ben, on va aller dans ces chiffres à ce niveau-là.
On doit juste économiser 10 milliards là.
On va aller à ce niveau-là. Les 200 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie. Sans contrepartie.
Non, mais aussi, bien sûr.
Aucune contrepartie, ni de salaire, ni d'emploi, ni d'environnement, de contraintes environnementales. Alors ça, moi, je veux bien qu'on le mette sur la table. Et sur ça, Bruno Le Maire, vous pouvez chercher. Il a jamais dit une syllabe.
Je suis d'accord, voilà, et il est aussi contre la taxation des super profits.
Exactement.
Je suis d'accord avec vous. Juliette Briens, est-ce que ça vous hérisse cette politique du chèque ?
Mais vous savez, dans ce pays, il n'y a aucun problème qui ne se réglera pas par l'annonce d'une nouvelle taxe ou l'annonce d'un nouveau chèque. Voilà, donc on crée une taxe, et ensuite pour compenser la taxe, parce que ça coûte cher aux gens, on crée un chèque. Et après, quand on a trop dépensé avec le chèque, on fait une nouvelle taxe. Voilà.
Ou à l'inverse. On fait un chèque et pour financer le chèque, on fait une taxe.
Bah oui, ça marche dans les deux sens. Et simplement, moi, ce qui m'étonne ici, c'est le ton quoi, de Bruno Le Maire. C'est pas comme s'il était ministre de l'économie depuis 7 ans, quoi. Donc, c'est très sympa, c'est très bien.
6 ans, 10 mois et 9 jours.
Voilà, il fait preuve d'une volonté vraiment incroyable de réformer le système français et l'économie. Enfin, genre, à un moment donné, la dette ne s'est jamais autant creusée que depuis son mandat de ministre. Donc, c'est très bien. Je pense qu'il devrait vraiment beaucoup moins parler et puis beaucoup plus agir. Et puis, on pourra peut-être recommenter plus tard, une fois qu'il aura agi.
Il était contre la politique des chèques.
Il s'est pas trop fait entendre quand même.
Il fallait le dire à Emmanuel Macron.
C'est la vie gouvernementale. Ah oui. Bon, voilà, je ne fais pas toujours ce que j'aurais eu envie de faire.
Ah ouais.
Mais peut-être que dans ce cas-là, effectivement. Quel est le gouvernement.
Ça ferme sa gueule, ça démissionne.
C'est ce que j'allais dire.
Aurélien Rousseau, qui avait plutôt été un très bon ministre de la Santé durant les quelques semaines qu'il a passé au ministère, a démissionné lors de la loi sur l'immigration. Mm-hmm. Donc en fait, un ministre est capable de démissionner. Je vous vois très attentif sur les messages, Rémi.
Oui, j'ai ce message d'Abou, notamment, qui nous dit... franchement, la politique des chèques, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. On a un déficit record. Ce qu'il faut, selon moi, c'est s'en prendre soit à la taxation des plus riches, soit augmenter les salaires.
Alors, Jean-Marie est avec nous, appelle de Civray dans la Vienne, et des conducteurs de bus à temps partiel. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour.
Jean-Marie, est-ce que vous allez toucher le chèque énergie là, à partir de la semaine prochaine ?
Ben oui, normalement oui, hein, parce que moi ça fait déjà 2 ans que je le touche, ça fait plus de 2 ou 3 ans, donc je touche 98 euros de chèque énergie.
D'accord.
Bon ben c'est pas beaucoup, mais bon ça m'aide quand même, et ça m'embêterait de pas l'avoir, quoi, parce que éventuellement moi je suis à temps partiel subi, parce que mon entreprise, comme je fais du scolaire et
il n'y a pas de bus à 14h, ça, j'entends.
Ben, oui, voilà. Et puis même, c'est ça. Et puis, dans mon entreprise, je crois qu'il y a quelques conducteurs qui sont à temps plein, mais pas plus, quoi.
Et vous, Jean-Marie, donc, en fait, pour vous, il ne faut pas arrêter la politique du chèque, ou alors il faudrait trouver autre chose. Voilà. Est-ce que vous êtes content de voir cette somme sur votre compte en banque, ces 98 euros, ou vous dites, je préfère gagner plus, ou alors que ça se soit fait différemment, quoi.
En fait, c'est pas une, c'est, en fait, c'est un chèque, c'est vraiment un vrai chèque, quoi. C'est pas une somme qui arrive sur mon compte en banque, hein. Mmh. En fait, c'est un vrai chèque qui arrive et je dois l'envoyer à mon fournisseur pour qu'il déduise ma facture, en fait. Ça se passe comme ça. C'est pas comme,
C'est pas comme le chèque carburant où, voilà, où en fait, on peut s'en servir pour, d'accord.
Voilà, c'est ça. Donc là, je suis obligé de l'envoyer à mon fournisseur. Je peux pas m'en servir pour autre chose.
C'est
déjà une bonne chose parce que je suis sûr qu'il y en a qui en profiteraient pour faire autre chose. Mais maintenant, bon, moi, j'aimerais bien avoir un plus gros salaire. J'aimerais bien qu'on me propose un travail à temps plein et je
c'est ça.
Pourtant, j'ai fait le tour de la France. Là, je suis né en Lorraine. Je suis parti travailler à Caen. De Caen, je suis venu ici. Mais maintenant, j'ai 52 ans, je commence à être fatigué de bouger.
Ouais,
et puis, surtout, je veux rester aussi dans le rural parce que c'est à Chouin, parce que la ville, ça ne me convient plus, c'est trop de stress.
Oui, donc, puis vous avez le droit de choisir ce que vous avez envie de faire. Enfin, il manquerait plus qu'on... Je veux dire, vous avez le droit de choisir le métier que vous voulez faire. Et puis, même si, malheureusement, pour vous, effectivement, c'est un métier, c'est un temps partiel subi. Mais en tout cas, on a bien compris, Jean-Marie, que voilà, ces 98 euros, bah, ils allaient vous faire du bien pour payer votre facture d'énergie. Et c'est vrai que on a souvent critiqué le chèque carburant parce que en fait il y avait même des gens qui n'avaient pas de voiture qui en bénéficiaient. Là pour le coup c'est des chèques énergie. Vous voilà, ce chèque là il va servir uniquement pour l'énergie, donc il est extrêmement
ciblé. Mais moi je comprends Jean-Marie qui vit une période difficile et c'est tout à fait normal qu'il se raccroche à ses 98 euros. Mais justement en fait c'est ça le problème, c'est parce que cette politique de la taxe et du chèque, elle rend les gens complètement drogués et dépendants à l'État. Voilà. En fait,
mais
c'est
sauf que Jean-Marie, il n'a pas d'autre solution, tu vois.
Mais Jean-Marie, c'est pas le problème.
Mais Jean-Marie, il fait partie des 5,5 millions de personnes qui vont le recevoir. Et à mon avis, la très, 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 très grande majorité des gens qui vont le recevoir, ils sont comme Jean-Marie,
mais
en fait.
C'est
il voudrait bien autre chose.
Mais c'est un travail de fond qu'il faut faire, qui passera forcément par des moments difficiles. Parce que si on veut, si on veut rendre les gens indépendants, justement, indépendants de l'État, où ils sont pas là à attendre le moindre petit chèque pour survivre, évidemment,
le problème, c'est qu'il est en mi-temps imposé. Les gens veulent vivre de leur salaire.
Bien sûr, voilà, exactement.
En fait, le problème, c'est que sur le transport scolaire, c'est compliqué d'être à plein temps.
Mais bien sûr, mais il aimerait avoir un meilleur salaire, avoir plus de temps de travail, etc., pour pouvoir vivre dignement.
Et visiblement, il n'a pas de problème d'indépendance, vu qu'il change de région pour essayer de trouver. Donc, on est vraiment vers quelqu'un qui fait tout pour gagner mieux avec son salaire.
Exactement. On a Mathieu également qui nous appelle du nord de Comines, un petit voisin de Fred et Rémi, et qui est en profession libérale. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour Fred, et je suis supporter du Racing Club de Lens.
Oh là là, donc c'est comme une France et pas comme une Belgique, quoi, alors.
Donc c'est pour ça que vous dites bonjour qu'à Fred, quoi.
Plus particulièrement, ouais.
D'accord, mais moi comme je suis habillée en sang et or, vous pouvez aussi me dire bonjour.
Également.
Ce matin quand j'ai vu Estelle.
Mathieu, est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette politique du chèque?
Non, pas du tout. Bah, c'est ce que Madame Briand se disait aussi, hein. On est un peu dans un système qui se mord la queue. Et en fait, moi, j'aimerais bien aussi que maintenant, chacun se responsabilise. Parce que quand vous vous promenez les week-ends dans les centres commerciaux, c'est plein. Vous allez au McDo, c'est plein.
Oui, mais c'est pas ces gens-là qui vont toucher le chèque.
Mais si.
Mathieu.
Mais si, en partie, je pense qu'il y a une partie qui est non visible et qui a vraiment du mal. Mais à côté de ça, il y a une partie qui est visible et finalement qui profite un peu de tout ce qu'on donne.
Moi, oui, mais cette partie qui est au supermarché, excusez-moi, hein, là on a Jean-Marie qui nous a appelé, qui gagnait 800 euros par mois. Dans un instant on aura Bruno, lui qui gagne 900 euros. Excusez-moi, hein, mais quand vous gagnez 800 euros par mois, vous pouvez pas aller faire la bringue au supermarché le week-end. Hein. C'est pas vrai, Mathieu.
Je sais pas. Moi, j'habite quand même dans une région où, je suis abonné à Lens.
Ouais.
J'ai pas envie de mettre les gens à dos, mais c'est quand même une zone qui est sinistrée.
Complètement.
Et les gens dépensent dépensent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de futilités. Et je pense que la personne qui appelait juste avant.
Oui, mais ils gagnent pas 800 balles par mois.
Si
on gagne 3000 par mois, bah oui, on peut avoir quelques futilités. Si on gagne 800, je vois, enfin, moins d'avoir touché un héritage à côté, je vois pas comment on peut s'éclater avec son argent, quoi.
Non, mais je sais pas. Moi, je fais partie de la classe moyenne supérieure. Et en fait, on se rend compte aussi que nous, on commence à avoir du mal. Moi, je suis profession
bien
libérale.
Bien sûr. Et vous ne toucherez pas ce chèque, c'est vrai.
Je chauffe à 18 degrés mon cabinet que l'après-midi de 13 à 17. Ouais. En deux mois, j'en ai pour plus de 400 euros d'électricité. Ouais. On fait attention à d'autres choses. Voilà, on fait attention à d'autres choses.
Mais le problème de toute façon de cette politique du chèque, c'est et Dieu sait qu'on en a parlé beaucoup dans cette émission, c'est l'effet de seuil et le fait qu'il y ait des gens et qui soient tout juste au-dessus du seuil et qui eux ne toucheront rien et c'est l'un des gros problèmes de cette politique. Merci Mathieu en tout cas de nous avoir appelé supporters du RC Lens. On termine avec des messages. Mathieu. Rémi, le résultat de notre sondage.
Oui, j'ai ce message de Mathieu qui nous dit stop au chèque et responsabilisation de chacun. Voilà, c'est court.
Et puis, on avait Bruno, on n'a pas eu le temps de le prendre, qui est en invalidité. Il dit, moi, je ne peux plus travailler et sans ce chèque, je ne m'en sortirai pas. Je touche une pension de 900 euros par mois. C'est effectivement la population qui visait dans ce chèque énergie. On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. L'État doit-il arrêter sa politique du chèque?
C'est le oui qui l'emporte. Oui pour 79% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, on aura Frédéric Simotel. On n'arrête pas le progrès. Anthony, Frédéric, pardon, qui va nous parler de nouvelles technologies pour éviter les cambriolages. Mais oui, ça tombe bien, le week-end de Pâques là, qui arrive avec un petit pont. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Billy 51, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et c'est le moment d'accueillir Frédéric Simotel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Frédéric, c'est bientôt le lundi de Pâques. Qui dit lundi de Pâques dit week-end prolongé. Certains d'entre nous vont partir justement un petit peu loin, vont laisser leur appartement, leur maison sans surveillance. Et justement, eh bien aujourd'hui, vous allez nous parler de ces nouvelles solutions pour éviter les cambriolages.
Oui, on vous dit souvent parfois, tiens, quand vous n'êtes pas chez vous, coupez le Wi-Fi parce que ça économise l'énergie. Oui, mais si vous coupez le Wi-Fi, le Wi-Fi peut aussi vous servir à justement éviter les cambriolages. Ah et bon, c'est justement, c'est Verisure, hein, on les connaît pour les alarmes. Alors, c'est les alarmes connectées. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent une centrale normale, une centrale Wi-Fi. Et puis, le Wi-Fi, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie, ça n'arrête pas d'envoyer des ondes dans l'appartement. Mmh. Donc, on met des détecteurs. On n'est pas obligé de mettre des caméras, surtout dans les chambres. Voilà, on met ces détecteurs. Et donc, ça envoie ces ondes. Et puis, quand les ondes vont être coupées par une forme assez imposante, on s'est dit, il y a sans doute un intrus. Et donc, il y a tout.
Alors, si vous avez un gros chien.
Justement, ce Wi-Fi est suffisamment intelligent pour repérer si c'est un chien, si c'est votre aspirateur robot, si c'est même un ventilateur qui se met en route, qui fait un peu voler un peu d'air et tout ça. Il peut repérer tout ça. Et donc là, à partir du moment où on repère qu'il y a un intrus, eh bien soit, vous savez, maintenant on a on peut envoyer de la fumée, on peut envoyer une alerte, il y a tout un ensemble de systèmes.
Parce que l'alarme se déclenche.
Grâce au Wi-Fi, on peut repérer les intrus.
Autre solution, ce sont des ampoules intelligentes qui permettent de simuler sa présence à la maison, même quand on est parti.
Oui,
ça, nos parents faisaient ça, ils mettaient le minuteur avec la lumière dans
mieux.
Le salon.
Oui, mais il faut mettre le minuteur. Là, c'est encore mieux. C'est des ampoules intelligentes, on va en mettre à 2-3 endroits stratégiques de la maison. Et en fait, on va vivre comme ça, normalement, dans la maison. Et l'ampoule, elle va apprendre. Elle va voir qu'à 7h du matin, on allume la salle de bain, qu'à 7h15, on allume la cuisine. Et elle va comme ça recréer tout notre parcours. Elle va apprendre. Et puis, quand on s'en va, on enclenche le système. Et elle va suivre nos habitudes de vie. Dire, à 7h, je vais allumer la salle de bain. Ah, voilà. Et puis, c'est pas la peine de changer toutes les ampoules, mais d'en mettre 3-4 dans les endroits un peu stratégiques. Et voilà. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe, qui va dans la cuisine, qui éteint la cuisine, qui allume
le salon.
Donc, je trouve ça assez intelligent.
Ça coûte combien? Surtout,
alors les ampoules doivent coûter aux alentours d'entre 60 et 70 euros quand même.
Ah, quand même.
Mais voilà, il y a toute la connexion. Mais on achète trois, une pour la cuisine, une pour le salon, une pour une chambre, et puis on a l'impression que la personne circule un peu partout.
Ça, c'est pour l'intérieur de la maison, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi surveiller ce qui se passe dans le jardin, parce que souvent, c'est par là que passent les intrus.
Alors là, il faut un grand jardin, parce qu'en fait, c'est avec un drone.
Avec des drones?
Voilà, on a des capteurs un peu partout dans le jardin, et puis tout d'un coup, on sent qu'il y a une présence, alors qu'il n'est pas un animal, encore une fois, c'est des systèmes suffisamment intelligents qui repèrent, qu'il n'est pas un animal, qu'il n'est pas un oiseau, c'est vraiment une personne, et là, il y a une petite boîte qui s'ouvre, il y a un drone qui sort, et qui va commencer à sillonner, à patrouiller un peu au-dessus du jardin, et prendre en photo, enfin, suivre en vidéo l'intrus, et puis prévenir, évidemment, envoyer toutes ces alarmes. Alors ça, c'est un peu plus cher. Ça
vous j'allais vous dire,
10-12 000 euros.
12 000 euros ?
Oui, il faut un grand terrain. Quoi.
Autant prendre un garde. Autant prendre un gardien.
Autant banque aussi.
Ou un chien.
Oui, t'as
raison. Il faut revenir le nourrir.
Ça
pendant tes vacances.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel, pour toutes ces innovations. Frédéric, vous n'avez pas d'accent, c'est normal, ou est-ce que vous l'avez gommé ?
Non, je l'ai gommé quand j'étais petit, j'étais
j'ai habité dans le Midi pendant quelques années. Et figurez-vous qu'on m'envoyait, quand je suis remonté en Bretagne avec mes parents, on m'envoyait au tableau pour réciter des poésies, pour sourire un peu, parce que je les faisais avec l'accent.
Ah, vous avez souffert de glottophobie, c'est-à-dire de discrimination à cause de l'accent. On en parlera dans un instant. Avoir un accent aujourd'hui, est-ce un atout ou une faiblesse? Dites tout au 3216 et sur l'appli RMC. Si vous avez un accent chantant, écoutez, appelez-nous, on adore ça. Et dites-nous si ça a été un handicap pour vous, au contraire, une force. Ça tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.